Une porte qui va à la chambre ou une porte...
Peu importe.
Bon, d'accord, je peux celle-ci. Voilà, je vais vous aider les uns.
Peut-être
si
vous pouvez monter les marches.
Et ensuite...
Puisqu'on parlait de monochrome, qu'est-ce que vous pensez de ce bleu? C'est une couleur importante pour Monet. C'est la couleur qu'il a choisie, là en l'occurrence, pour la cuisine.
Oui. Ce qui me frappe, c'est que ce bleu apparaît dans une pièce où l'on travaille. C'est une pièce où l'on fait la cuisine, c'est une pièce où l'on travaille. En ce sens, et les peintres reconnaîtront ça facilement, cette pièce est beaucoup plus proche de l'atelier qu'aucune autre pièce. Elle est beaucoup plus proche de la cuisine picturale, si je puis dire, qu'aucune autre pièce.
C'est une maison qui est ouverte sur le jardin. Alors là, c'est l'heure du soleil couchant, puisqu'on a déjà fait tout notre parcours. Mais en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est lové dans la couleur, bleu ou jaune, selon la pièce, et qu'on a une trouée sur le motif, sur le jardin, et donc sur les fleurs.
Ici, à Giverny, il a lui-même construit son propre motif. C'est-à-dire qu'on a presque une double œuvre d'art. On voit très très bien comment Monet en arrive à ne choisir comme motif, à travers le jardin et à travers les nymphéas, à ne choisir comme motif que ce qu'il a déjà construit lui-même.
Catherine Larose.
En fait, qu'est-ce que c'est un jardin familial ?
Le jardin familial se construit un peu de façon désordonnée, parce que bien que certaines personnes soient très versées en botanique, on obéit toujours à des coups de cœur, à des impulsions, on essaye une plante, on l'enlève, on la trouve pas belle, on en remet une autre. Et finalement, un jardin se construit comme ça, sur des passions successives. Et le jardin familial, il a toujours un côté, un petit peu comme un appartement où vivent une nombreuse famille, c'est-à-dire avec des objets plus ou moins hétéroclites qui sont rassemblés, des petits souvenirs de voyage, des objets d'art. Et le jardin familial, c'est un mélange entre tout ça. Il y a à la fois des plantes très rares et puis des toutes petites choses qui sont des petites choses qu'on aime parce qu'elles sont tendres, parce qu'elles sont délicates.
J'ai envie de dire que, avec Monet, nous assistons à l'événement suivant. L'intérieur aurait complètement absorbé l'extérieur. C'est une clôture. Je crois que la nature subit un effondrement radical avec Monet.
Peut-être que le jardinier, c'est cela, c'est celui qui justement la prend à bras-le-corps, la nature, prend la fleur de face, de front, ouais, comme sa peinture, et par cette guerre menée avec la nature, il la remaîtrise, réinvente, replante, refabrique, et rien de moins naturel que le jardin à Giverny.
Oui.
En fait. Jusqu'au bassin d'eau, qui est une pure invention de Monet.
Oui, voilà, un beau mot, invention.
Ce que j'aime dans ce jardin japonais, c'est le point d'eau qui rassemble les regards, qui attire les regards, suscite en permanence l'admiration chez les visiteurs. Puis moi, j'ai un endroit que j'aime beaucoup, qui est précisément un endroit que personne ne regarde, qui est cette lisière avec le champ voisin. Et ce que j'aime, c'est voir le contraste justement entre l'espace... L'espace construit du jardin, l'espace extrêmement pensé, et puis de l'autre côté, les graminées, les vaches au loin, et puis les collines.
semis environ 300 pots pavots, 60 pots pois de senteur, environ 60 pots hégémones blanches, 30 jaunes, sauge bleue, nymphia bleue entérine, dahlia, iris. Du 15 au 25 du mois, mettre les dahlias en végétation sur couche. Bouturez avant mon retour ceux qui sortiront. Pensez aux bulbes de lys. Si les pivoines arrivent, les mettre de suite en place si le temps le permet. En ayant bien soin d'abriter pendant les premiers temps les bourgeons du foie, comme de l'ardeur du soleil. S'occuper de la taille. Les rosiers, pas trop longs, sauf les variétés épineuses. En mars, semer les gazons, bouturer les petites capucines. Avoir bien soin dans la serre du gloxina, des orchidées, ainsi que les plantes sous châssis. Mettre en place les bordures comme c'est convenu. Installer les fils de fer pour les clématites et pour les rosiers sarmenteux. Planter les éclats de rosiers du bassin autour du fumier dans les poulaillers. Planter aussitôt les Helianthus latiflorus en bonne touffe. Activer la gestation des chrysanthèmes et ne pas oublier de remettre les toiles sulfatées sur les châssis de la serre. De même que le Joyce de Finnegan's Wake ne pourra pas laisser ses fleurs tranquilles, qu'il lui faudrait les broyer, les triturer, jusqu'à ce que leur équivalent langagier soit méconnaissable. De même, Monet.
Le peintre serait en fait ce premier homme d'après le déluge.
Je voudrais essayer de faire une sorte de rêve où on retrouverait en même temps l'homme qui est le premier homme qui est sorti du déluge, qui a vu l'eau, donc vous imaginez l'eau sur toute la terre, le premier homme qui voit cela, et le petit enfant qui se voit pour la première fois dans le miroir. Il voit quelque chose, et dans l'image, dans le miroir, quelque chose lui échappe, que je pense les peintres n'oublieront jamais. C'est lié à ce que Lacan théorise à propos de la tâche. Ah, la tâche, c'est-à-dire que ce qui fait regard, ce n'est pas de la ligne, c'est quelque chose qui vient m'aveugler, qui fait tâche. Et toute les nymphéas, on peut se demander pourquoi il a mis des fleurs, etc. En fait, les nymphéas sont des magnifiques fleurs qui poussent sur le plan horizontal de l'eau. Bien sûr, ça inscrit l'horizontalité, le plan horizontal. Ce plan horizontal, quand il est rabattu sur le plan intersecteur, comment cela va-t-il produire cet effet extraordinaire de vertige, de profondeur ? Et quand on regarde de près, sauf quelques exceptions, il y a fort peu d'arbres dans les nymphéas, il y a quelques scansions comme ça verticales. Sur 5 mètres ou sur 6 mètres, nous n'avons pas de verticale et nous sommes pris dans cette errance parce que chaque point des nymphéas fait tâche et c'est là où ça nous regarde. Et à partir de ces tableaux-là, il commence à travailler ce que moi j'appelle la double intervention. Et c'est extraordinaire de le voir. Les premières couches sont faites très à sec, avec des pinceaux très à sec, où la trame de la toile est présente à l'œil du spectateur. Et finalement, ceux qui regardent le spectateur, ce sont des touches épaisses posées au pinceau, très souvent faites avec deux couleurs différentes. C'est d'ailleurs en quoi il est du côté encore de l'impressionnisme et non pas du postmoderne. Mais on voit très bien cela. Et la touche apparaît comme petit à petit dévorant tout ce qui est du linéaire. L'œil du spectateur est regardé par les taches de rose, de mauve, de jaune que lui-même a appelé nymphéa. Ah.
Marcelin Plenet, dans son très beau travail sur Monet, il fait remarquer que tout le monde associe Monet au Nymphéa. Mais ce que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est qu'une nymphe, c'est une maîtresse, une jeune fiancée. Et qu'il y a également la nymphe en anatomie, c'est la partie du corps féminin qui recouvre le clitoris et qui protège l'entrée du vagin. Donc cette affaire est délicate.
Il y a un côté froissé dans le pavot, comme une robe à peine dépliée, où s'est plissé Fortuny, qui était très fin. Et il y a quelque chose d'une sensualité incroyable dans le pavot, ces fleurs qui ont l'air jamais à peine écloses, à peine réveillées, enfin qui s'offrent au soleil avec nonchalance, et tout ça avec des coloris absolument extraordinaires, vraiment comme des failles, des tissus de soie, et avec ces pistils qui sont sombres. Alors c'est à la fois une fleur qui est sombre, qui est violente, et en même temps d'une douceur et d'un abandon, d'une nonchalance. Dans le pavot, il y a une transparence, mais la fleur est tellement pigmentée que cette transparence, elle est très sourde. C'est un petit peu comme un rideau de couleurs qui serait posé devant la lumière, mais un rideau sombre, un rideau de velours rouge, de velours pourpre. Et on aurait un peu de mal dans cette pièce à distinguer la lumière. On sait qu'elle est derrière, mais on a un peu de mal à la distinguer.
Il y a un texte terrible d'Octave Mirbeau, qui, vous savez, était un grand ami à Monet, qui date de 1899, l'année même où Monet commence sa série des ponts japonais. Ce texte s'intitule « Le jardin des supplices » et c'est un texte qui nous fera entrer dans l'univers du marquis de Sade et de Georges Bataille. Je crois que c'est un texte contre, tout contre l'univers de Monet. J'aimerais bien vous le lire.
Allons-y.
Clara, la narratrice, dit à son amant, « Vois mon amour, comme les Chinois sont de merveilleux artistes et comme ils savent rendre la nature complice de leur raffinement de cruauté. Ici, c'est parmi les fleurs, parmi l'enchantement prodigieux et le prodigieux silence de toutes les fleurs que se dressent les instruments de torture et de mort. Tu vas les voir tout à l'heure, si intimement mêlés aux splendeurs de cette orgie florale, aux harmonies de cette nature unique et magique, qu'ils semblent en quelque sorte faire corps avec elle, être les fleurs miraculeuses de ce sol et de cette terre. Des pétales d'arbres qui ont sur leur tête devant des jardiniers qui font courir des clématites sur les armatures de bambou, enroulent des hippomées sur les tuteurs de bois, soignent les lys parsemant les pelouses et la multitude affolante des pivoines. Rien n'y manque et tout se résume. Les parfums étourdissants et les cours suppliciés dans les troncs évidés des arbres comme des fantômes d'amadriades. Des nymphéas, des nélumbiums animent l'eau de leurs feuilles processionnelles et de leurs corolles errantes jaunes, mauves, blanches, roses, pourprées. Des touffes d'iris dressent leurs hampes fines, haut desquelles semblent percher d'étranges oiseaux symboliques. Des butons panachés, des cypérus parés à des chevelures, des lusules géantes, mêlant leur feuillage disparate aux inflorescences paliformes et bulboïdes des plus stupéfiantes aromatiques. Par une combinaison géniale, sur les bords du bassin, entre les scolopendres gaudronnés, les trolls et les inules, des glycines artistement taillées s'élèvent et se penchent en voûte, au-dessus de l'eau qui reflète le bleu de la grappe tombante et balancée. Les amants traversent le pont une dernière fois, après avoir épuisé l'horreur des dernières visions et sur lequel ils s'arrêtent un moment, regardant les iris aux formes semblables à des caractères kabbalistiques et se penchant vers les nymphéas qui font au narrateur l'effet de têtes flottantes et coupées, entre lesquelles nagent des cyprins, parés à des pensées rouges dans le cerveau d'une femme.
Louis Kahn.
Les nymphéas, ce n'est même plus une démonstration de gestualité, c'est autre chose. Hein. Je dirais que c'est une atomisation du geste. Il dénaturalise le geste.
Qu'est-ce que vous appelez dénaturalisation du geste ?
Déjà, à la Renaissance italienne, on questionnait à savoir s'il fallait laisser les traces de pinceau. Le sfumato, qui est en vigueur à la Renaissance italienne, ce sont des fonds qui sont très vaporeux, très philosophiques, très loin, et qui amènent un bonheur au fond du tableau, etc., où il n'y a pas de traces de pinceau. L'impressionnisme produit une révolution très importante par rapport à la peinture de salon de son époque, et principalement parce que la sexualité dont nous rend compte l'impressionnisme est une sexualité à vif sur le tableau. Et ça l'est, cette sexualité à vif sur le tableau, parce qu'on peut voir la trace du pinceau.
Nous avons, avec les nymphéas, probablement le premier environnement de l'histoire de l'art du XXe siècle.
Dominique Dupuis-Labbé.
Deux salles dans lesquelles pénètre le spectateur et il est immédiatement immergé dans la peinture, comme le dit un des amis de Monet, Louis Gillet, c'est une peinture qui n'a ni bord ni cadre. Une peinture qui se prolonge d'elle-même, qui permet l'intimité immédiate avec celui qui regarde. C'est une peinture dans laquelle on ne trouve plus le point de tension, ce point de fuite qui était celui de toute la peinture occidentale, qui a été déjà brisé avant lui par les fauves et les cubistes. Le centre de la peinture explose en quelque sorte, et il explose par la fragmentation de la touche et par cette pulvérisation en quelque sorte de la couleur qui s'empare de toute la surface de l'œuvre. Et on peut dire d'une certaine manière qu'effectivement, Claude Monet est probablement le père du all-over pratiqué par tous les abstraits américains.
Pierre Georgel.
L'entrée des nymphéas se faisait directement par la terrasse. C'est un détail très important. C'est-à-dire que les visiteurs arrivaient en suivant la terrasse du bord de l'eau avec la vue de la Seine et dans une promenade horizontale sur la terrasse. Il n'avait que 3 ou 4 marches à monter pour rejoindre le niveau intérieur de l'orangerie, et il se trouvait de plein pied ensuite avec les nymphéas.
Je vous laisse passer.
Il s'agissait d'un vestibule elliptique, comme les salles des nymphéas elles-mêmes. Et de part et d'autre du vestibule, 2 portes vitrées sur la Seine et sur le jardin étaient ouvertes en permanence. De telle sorte que le visiteur était invité, avant même d'entrer dans l'univers autonome des nymphéas, à récapituler en quelque sorte la vision de la Seine, du jardin et de la lumière naturelle.
Donc on continue à rentrer petit à petit. Alors là, juste avant, nous sommes devant une plaque. Ça vous embête de me la lire ?
Les nymphéas de Claude Monet constituent le testament artistique et spirituel du peintre. C'est le jour de l'armistice, le 11 novembre 1918, que Monet décide d'offrir à la France, entre guillemets, comme un bouquet de fleurs, selon son expression, des toiles inspirées par le jardin qu'il a aménagé dans sa maison de Giverny. C'est finalement 8 grandes compositions qu'il exécute pour être installées à l'Orangerie des Tuileries, dans une disposition architecturale approuvée par lui. Selon sa volonté, ces salles n'ont été ouvertes au public qu'en 1927, après sa mort.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, dans cette offre de Claude Monet, c'est que Georges Clemenceau la prend au vol. Dès le lendemain, il court à Giverny. Et à un moment, Eh bien, à un moment où on peut penser qu'il a autre chose en tête. On est au lendemain de l'armistice, il y a la France à reconstruire, des gouvernements à rebâtir. Donc, des enjeux qui semblent autrement plus importants que d'aller voir un peintre, si grand soit-il, si représentatif de la France soit-il, eh bien, Clémenceau se rend à Giverny. Et moi, j'y vois dans ce geste de Monet et dans cette réponse immédiate de Clémenceau, j'y vois une formidable réponse qui est une pulsion de vie de la part de deux vieillards face au carnage qu'a constitué la Grande Guerre.
Parmi les idées qui ont été soulevées par Monet à cette occasion, il y avait celle de faire arriver les visiteurs par le sol, je ne sais plus si c'est par un escalier ou par un ascenseur, qui aurait permis d'émerger directement dans cette espèce d'aquarium, de bocal, de peinture, sans même l'interruption imposée par les portes, comme c'est le cas maintenant.
Il y avait donc cette idée d'arriver par en dessous de l'eau pour surgir à la hauteur des nymphéas.
Oui, et surtout l'idée d'un flux, d'un flot littéralement ininterrompu de peinture. On était dans l'ordre de l'illimité, de l'absolument illimité.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'effet de rotondité comme ça de ces salles ?
C'est l'idée d'une forme parfaite qui est celle de l'ellipse et de deux ellipses identiques reliées par des passages eux-mêmes courbes qui suggèrent une démarche sinueuse et ininterrompue.
Peut-être un petit peu également ce dessin de l'infini au sol entre
absolument,
les deux.
Absolument, c'est vrai. Quand on regarde en plan l'installation des nymphéas dans son état définitif, on a l'impression d'une image de l'infini.
Il a vu, mais il a mis une vie à le voir. Quelque chose qui nous plonge dans l'expérience du non-voir, de ce qui est caché, mais non seulement caché, impossible à voir. Et je me suis dit, cet homme est fasciné par... cet homme désire mourir par l'eau. Il voulait aller dedans, plonger dedans.
Peut-être on peut aller voir la deuxième salle.
Dans la deuxième salle, trois des panneaux sont en quelque sorte encadrés par la présence des arbres, des saules,
voilà, qui agissent, voilà, dans la deuxième salle, donc.
Qui agissent à la façon de ce qu'on appelait dans le jargon des peintres au XIXe siècle des repoussoirs. C'est très important parce que là, l'un des propos fondamentaux des nymphéas, c'est de relâcher les cadres de la pensée logique, de la pensée discursive, de la pensée qui, comme l'indique le terme discursif, va d'un point à un autre, et au contraire de laisser monter dans le sujet, dans le visiteur, les impulsions du désir qui vous porte vers un objet.
Il est indéniable que, à la fin, Monet triomphe. Hein, il arrive à y voir clair. En perdant la vue, bien sûr. Hein. Il arrive à produire de la lumière. Mais à quel prix ? Thank you.
sortie du tableau et remontée à la surface du regard, c'était sous l'onde, à en perdre l'œil, Claude Monet. Un remerciement chaleureux à Marcelin Plenet, poète, qui nous a accompagnés sur les traces du peintre et auteur de la fiction « Le propre du temps » chez Gallimard. Vous pouvez faire connaissance avec l'œuvre de Michel Katz à la galerie Claudine Lutzmann. Quant à George Collins, philosophe et grand amateur de peinture, il sera l'auteur du catalogue de l'exposition François Moulignat au Crédac d'Ivry. Louis Kahn, artiste peintre, travaille tous les jours dans son atelier parisien. Catherine Larose est l'auteur de L'histoire sensuelle des jardins, Orban 91. Merci pour leur accueil au musée de l'Orangerie, à Pierre Georgel, conservateur, et Dominique Dupuis-Labbé, commissaire de l'exposition Louis Kahn, Les derniers nymphéas. Geneviève Aitken, auteure de la collection des estampes japonaises de Claude Monet pour la Bibliothèque des Arts, et Sylvie Patin, conservatrice au musée d'Orsay, et auteure de Monet, un œil, mais bon Dieu quel œil, dans la collection Découverte Gallimard. Puis Giverny, bien sûr. Merci à la Fondation Claude Monet pour son accueil dans les coulisses de la Maison du Peintre. Une suggestion. Un beau livre, chez Azan, Monet, en mer du Nord. Le tout pour une émission proposée par Stéphanie Katz et réalisée par Isabelle Huel. À la prise de son et au mixage, Emmanuel Colchet, Nathalie Fado et Olivier Dupré.